Jordanian.
Dat is niet
de
France Inter, le 18-20, Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans la communauté LGBT en Russie ce soir.
Первое. Мы предлагаем установить запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и или предпочтений.
Ce député de la Douma, le 27 octobre 2022, qui dit ceci, nous proposons d'établir une interdiction de la propagande des relations ou des préférences sexuelles non traditionnelles, quel que soit l'âge, fermez les guillemets, on est en 2022, il y en a eu d'autres avant et probablement aussi d'ailleurs, y en aura-t-il après. Bonsoir Sergueï Chikalov.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes russe, installé en France depuis 2016. Est-ce que vous racontez dans votre livre qui s'appelle Espèce dangereuse, publié aux éditions du Seuil, ce que vous racontez, c'est combien vous avez cru en Russie qu'on pouvait être gay sans culpabiliser, sans se cacher. Finalement, ça n'a pas duré longtemps. Nous entendrons un reportage de Sylvain Tronchet qui est à Moscou en ce moment. Et c'est ça qui est le plus émouvant, Sergueï Chikalov, dans votre livre. Vous y avez cru sans souci. Vous dites même cette phrase à un moment, on existait à la télé, à la une des gros magazines nationaux, dans la rue, au bureau, dans les bars, en soirée, chez des amis d'amis. C'était comme partout ailleurs. Jusqu'à quel point pensiez-vous que c'est bon? On avait réussi. Est-ce que vous avez cru ça, réellement?
Alors, je crois que je l'ai vraiment cru. Mmh. Ça peut paraître complètement surréaliste aujourd'hui, surtout en me relisant aujourd'hui pour parler de mon roman. Mmh. Je me dis que la Russie dont je parle peut paraître complètement surréaliste, mmh. et pourtant, elle a été bien réelle. Que ce soit complètement ouvert d'esprit, que ce soit complètement libertaire, non, peut-être pas, mais il y avait beaucoup de tolérance et en fait la seule chose que les gens se sont dites, c'était on est toléré, on est accepté, ça nous suffit, on veut pas plus.
Vous le dites, hein, la société russe effectivement c'est pas toujours simple auprès de certains, mais effectivement au moins j'allais dire à l'affichage les choses commençaient à fonctionner. Ça commence quand cette ouverture, le moment où on comprend qu'on peut arrêter de se cacher?
Alors je pense que ça a commencé dans les années 90, juste après l'éclatement de l'Union soviétique, donc sous Yeltsin, il y a eu cette vague de liberté complètement inouïe qui a apporté aussi beaucoup d'insécurité pour la société russe et pour l'économie russe également. Et puis dans les années 2000, il y a eu cette ouverture d'esprit, il y a eu tout un tas d'artistes, de photographes, de peintres, d'écrivains et de cinéastes qui ont commencé à oser aborder des sujets qui avaient toujours été interdits dans la société russe. Et c'est quand les artistes français, Pierre et Gilles, ont commencé à venir en Russie pour présenter une rétrospective de leur peinture, de leur photographie, dans l'un des centres d'exposition principaux de Moscou, le manège, où les gens ont commencé à se dire, ça y est, on peut être libertaire dans l'art et on peut être libre dans notre expression.
Vous parlez du concert de Mylène Farmer dans son Millennium Tour, ça a été un vrai grand moment. Vous parlez de George Michael qui vient en concert ici, ça veut dire que non seulement vous le croyez à l'époque à Moscou, mais nous tous autour, on se dit aussi, il y a donc une nouvelle Russie et les artistes viennent à ce moment-là. C'est ça qui est dingue.
Tout à fait, il y avait des artistes occidentaux qui venaient, l'Occident était perçu comme un allié culturel. Il y a eu l'année culturelle croisée France-Russie, je crois, en 2010. Plein de films de cinéastes français et francophones québécois, comme Xavier Dolan par exemple, qui passaient dans tous les festivals de films de Moscou. Et puis il y a eu aussi les artistes locaux qui ont commencé à oser aborder des sujets interdits. Il y a eu le groupe Tatou qui a quand même passé beaucoup de temps à s'embrasser à la télé pendant toutes les émissions principales à la première chaîne fédérale. Et c'est un groupe de deux lesbiennes qui n'ont jamais été lesbiennes
et
en réalité.
Alors, j'allais dire, vous allez nous le réserver pour la fin, mais en effet, vous avez découvert après, quand tout s'est refermé, qu'en fait tout ça était du marketing, effectivement. Mais c'est fou d'imaginer qu'il pouvait y avoir justement du marketing autour de l'homosexualité à ce moment-là. Est-ce que vous vous souvenez, Sergueï Chikalov, de vous? À quel moment, vous aussi, vous vous dites « Eh, je peux sortir tranquillement et comme tout le monde ?»
Oui, je crois qu'à l'âge de 16 ans, ça devait être dans les années 2000, peut-être 2001. J'ai toujours fait profil bas, parce que je suis quelqu'un de discret, quelqu'un de réservé, mais j'ai jamais eu peur de sortir, j'ai jamais eu peur de m'afficher parce que c'était pas pénalisé, c'était pas pénalisable. Aujourd'hui, j'imagine même pas ce que doivent ressentir les garçons et les filles de 13 ans, de 14 ans, qui découvrent leur sexualité et qui sont obligés de vivre cachés et qui ne peuvent pas en parler parce que ce qu'ils ressentent, l'amour qu'ils veulent vivre est considéré comme un amour délinquant.
Les générations, ça compte, et on vous dites dans votre livre, on imagine aussi la génération d'avant, celle de Brejnev et compagnie, et vous dites on vivait parfois mal cette levée de verrou soudaine, c'est un peu comme sortir de la famine, si on vous donne trop de nourriture d'un coup, vous pouvez en mourir.
Oui. Tout à fait, parce que il y a eu des générations d'anciens soviétiques, Homo Sovieticus, qui ont découvert à l'âge de 60 ans qu'ils pouvaient vivre un amour libre, et finalement cet amour n'aura pas duré longtemps, parce que les hommes qui ont 60, 65 ans en Russie, vu l'espérance de vie en Russie, ne sont pas tout jeunes.
Après, dans cette, vous l'avez dit, il y a le début des années 90, et puis il y a toute cette période où c'est Medvedev qui dirige le pays, Poutine est son premier ministre. Il y a ce moment, mais au fond, ça correspond à l'ouverture de toute la Russie. On a cru à un moment qu'on pouvait être opposant à ce moment-là en Russie. La grande époque Navalny, c'est aussi celle-là. C'est dans tout ce bouillonnement-là que vous vivez, vous, à ce moment-là, et qu'on pense en effet qu'une autre Russie est arrivée.
Tout à fait. En fait, dans mon roman, je dresse ce portrait de la société russe à travers le prisme des personnes homosexuelles. Mais en soi, cette fermeture, elle a coûté cher non seulement pour la communauté gay, entre guillemets, mais aussi pour toutes les autres personnes qui avaient aspiré à vivre dans une Russie autre qu'une Russie stagnante.
Est-ce que vous allez nous raconter comment vous êtes arrivé en France ensuite, mais vous le dites à un moment dans votre livre, comment est-ce qu'on aurait pu savoir que ce qu'on vivait là, au fond, nous aiderait à vivre après? Parce que vous avez tous, j'imagine, dans un coin de tête, à un moment, on a pu se montrer, la société russe a été différente, donc ça veut dire que ça peut revenir aussi, non ?
J'espère que ça pourra revenir un jour, parce qu'en tout cas, je pense que les Russes, je ne pense pas qu'ils soient plus homophobes que les Français ou les Européens, mais les Russes ont très très peu de pensées critiques politiques. Et en fait, ils suivent souvent le discours officiel annoncé par leur État.
Parce qu'aujourd'hui, être gay à Moscou, c'est devenu particulièrement dangereux. Toute la communauté vit dans la peur. C'est ce que va nous
raconter. C'est un délit.
C'est un délit, absolument. C'est ce que va nous raconter Sylvain Trochet. Les choses se sont particulièrement aggravées, d'ailleurs, depuis la guerre en Ukraine, parce que ces vieilles valeurs traditionnelles que prône la Russie, on les met face à un Occident décadent et perverti. Les décisions de justice donc se succèdent effectivement depuis un an. La communauté LGBT est obligée de se planquer. Écoutez-le, le reportage de Sylvain Trochet.
La vie de Yann Dvorkin a basculé le 30 novembre dernier quand la Cour suprême russe a classé extrémiste le mouvement international LGBT. Personne ne sait ce qu'est ce mouvement, mais Yann Dvorkin, directeur du Centre T à Moscou, une association d'aide aux personnes transgenres, a bien compris que si un juge décidait qu'il en faisait partie, il risquait 10 ans de prison. Alors il a fui la Russie.
J'ai tout de suite compris dès que j'ai lu la nouvelle. À la télévision, il citait le travail du Centre T en parlant d'une organisation extrémiste. Et nous sommes partis avec mon mari littéralement après l'annonce, sans attendre le tribunal parce que j'avais le sentiment d'une menace.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, les lois s'accumulent. Interdiction de la propagande LGBT en novembre 2022, interdiction des transitions de genre en juillet dernier. La décision de la Cour suprême a définitivement ouvert les vannes de la répression. Désormais, toute la communauté est visée, même dans ses cercles privés, comme le montre ce reportage de la chaîne de télévision REN TV, diffusé en février dernier.
Dans la région de Leningrad, des agents ont interrompu une fête provocatrice dans une maison de campagne. À l'intérieur, ils ont trouvé plusieurs dizaines de jeunes gens qui n'ont pas pu déclarer immédiatement quel était leur sexe. Les détails avec Elisabeth Vernick.
Des policiers cagoulés, armés, font irruption au milieu d'un anniversaire. Les mains en l'air, crie-t-il. Bilan de l'opération, quelques médicaments saisis et un drapeau arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT interdit en Russie. On ne sait pas s'il y a eu des poursuites pénales, mais le signal est clair pour toute la communauté. Genia, un jeune transgenre de Moscou, admet qu'il a peur désormais quand il sort.
J'ai peur de porter certains vêtements. Quand tu sais qu'une fille a été condamnée à de la prison pour des boucles d'oreilles arc-en-ciel, tu te dis « Oh mon Dieu, maintenant, ça peut m'arriver aussi ». Il faut être prudent quand on parle à des inconnus, parce que quelqu'un peut te sembler sympathique et puis hop, il se passe quelque chose. Et dans ce cas, tu seras moins bien protégé à cause de ces lois.
Un climat de peur entretenu par la délation, pratiqué jusqu'au plus haut niveau. Le mois dernier, le député de la Douma, Alexandre Kinstein, a publiquement désigné le ministre de l'éducation de sa région, de Samara, qui entretient, selon lui, une relation homosexuelle avec un collaborateur en publiant des photos des deux hommes en vacances.
Le lobby gay de la région de Samara a mis ses pattes arc-en-ciel sur les enfants. Et c'est effrayant. De telles personnes ne devraient pas s'approcher de nos enfants. Les personnes qui élèvent nos enfants devraient promouvoir les valeurs traditionnelles de la Russie. Vous n'êtes pas d'accord ? Partez à l'étranger.
Le ministre a nié être gay, mais il a démissionné. Partez si vous n'êtes pas content, dit Kinstein. C'est le choix qu'ont fait de nombreux membres de la communauté LGBT. Vlad participe à des shows de drag queen à Moscou, une activité de plus en plus risquée dans la capitale. Il a déjà été agressé à la sortie d'un spectacle.
L'avenir en Russie, je ne le vois pas brillant et heureux. Ce que je veux faire dans la vie, ce que j'aime vraiment, je ne peux pas le faire normalement. Je ne peux pas non plus écrire sur les réseaux sociaux. Je ne peux donc pas m'imaginer en Russie dans le futur avec les lois actuelles.
Depuis son exil à l'étranger, Yann Dvorkin du Centre T continue ses consultations de psychologue à distance. Il raconte que ses patients vont mal, certains font des tentatives de suicide. L'avenir de la communauté LGBT russe semble totalement bouché. Et tous se demandent quelle sera la prochaine invention du pouvoir pour accroître la répression.
Et merci à Sylvain Tranchet pour ce reportage. Sergueï Chikhalov, je vous ai vu rire parfois d'un rire nerveux,
oui,
tellement c'est grotesque. En fait,
tellement c'est absurde et on se croirait vraiment au Moyen-Âge.
Après, quand on entend cette drag queen qui parle là dans le reportage de Sylvain, il faut être sacrément courageux pour continuer.
Oui, sortir, et je pense que les gens qui restent là-bas sont très très courageux. Les gens qui osent encore faire des spectacles de drag ou autre chose, ils sont très très courageux.
Vous écrivez dans votre livre quand est-ce que le vent a tourné, on n'a pas vraiment fait attention, lorsqu'on se croit heureux, on laisse passer les choses, et vous dites ça s'est fait finalement rapidement, ça a été une dégringolade.
Oui, tout à fait, et je crois que malheureusement, dans toute société qui se croit libertaire et où on a l'impression d'avoir acquis toutes les libertés, au final, les libertés restent des choses très fragiles, et il faut les chérir, il faut les défendre, il faut les protéger. Heureusement qu'en France, la société est sensibilisée, on essaie encore de le faire. Mais c'est vrai qu'en Russie, les gens n'ont jamais appris à défendre leur liberté. Et c'est pour ça que ça s'est passé aussi vite, de manière aussi dramatique.
Vous vous souvenez, vous, du moment où vous vous dites « je ne peux pas rester, il faut rentrer ».
Oui, quand j'ai entendu le chef de tous les médias russes dire à la télé que les gays et toutes les personnes homosexuelles devraient être interdites de dons d'organes, parce que ce sont les organes qui ne sont pas utilisables, réutilisables. Mmh. Et il faut brûler les cœurs.
Mmh. Et là, vous dites, c'est bon.
Et là, je me suis dit, je ne me vois pas du tout évoluer dans cette société, que je sois homo ou pas.
Sergueï Chikhalov, ça s'appelle Espèce dangereuse. C'est un roman publié aux éditions du Seuil. On vous remercie vraiment chaleureusement de votre passage chez nous. Merci beaucoup.
Merci.